Macron dans une fusée, l'envoyer au bout de l'univers. Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder ou bien nous matraquer? Qu'on sait pas tout simplement nous gager. Macron est là pour nous emmerder. C'est pas un président comme les autres, il est encore mieux que les autres. C'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Va mettre Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la Terre. Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer au bout de l'univers. Mettre Macron dans une fusée. Que c'est le meilleur président, ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute. Il serait prêt d'aller sur la lune, Jupiter sans fortune. Oui, on l'aime autant qu'il nous aime. C'est à dire qu'on l'aime et on est là, même s'il ne veut pas. La fusée n'attend pas.
Et salut, bienvenue, c'est la revue de presse du Monde Moderne, vous la connaissez maintenant, ou presque, on lit bien quelques jours de la semaine à 9h30 maintenant, puisque on enchaîne après Tocsin pour ceux qui suivent Tocsin, et on regarde un peu comment on nous parle. Alors c'est vrai qu'on a l'impression de vivre dans un monde où les valeurs sont totalement inversées. Vous allez voir, ce matin, on va parler d'un ministre de la justice qui est relaxé. Il n'y aura pas d'appel. C'est vrai que Rémy Heitz pourrait faire appel, mais il a été nommé par Emmanuel Macron. Donc pourquoi embêter un ministre préféré chouchou des Macron comme Éric Dupond-Moretti? Ça ne sert à rien. Olivier Dussopt, ministre du Travail, à qui l'on doit cette réforme des retraites où personne n'a craqué. Eh bien, Olivier Dussopt qui se dit très confiant face à la justice et le reste, vous allez voir, terrorisme encore, bien sûr, avec Armand. Eh oui. Armand Iman, qui décidément était un peu foufou, sorti de prison. Bon, on aurait pu se dire, et éventuellement, on aurait pu éviter qu'il se balade dans la rue avec un marteau et un couteau pour tuer un touriste allemand. Non. Non, non. Mais vous allez voir, Olivier Véran est très content. On va aussi parler, bien sûr, de Russell Krief, qui a été critiqué par Jean-Luc Mélenchon. Et évidemment, tout de suite, c'est de l'antisémitisme, c'est scandaleux. Et vous allez voir qu'il y a un bloc derrière Russell Krief pour dire qu'elle fait du journalisme de qualité exceptionnelle, et non, qu'elle ne fait pas de la propagande ou du gloubi-boulga comme le font les chiens de garde, comme ils ont été appelés il y a longtemps de ça, c'est-à-dire les journalistes qui sont là pour tenir le système, pour faire en sorte que vous continuiez d'aller travailler pour quelques cacahuètes et que vous votiez pour un grand maltraitant tous les 5 ans en disant « Oh ben je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi méchant, voilà !» J'espère que vous allez bien. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette revue de presse. N'hésitez pas à la partager partout où vous la voyez, à en parler autour de vous, à vous abonner. Vous pouvez le faire, c'est sur Patreon ou ailleurs. Et puis, on compte sur vous. Je vais être sur scène un peu partout normalement. On prépare des dates près de chez vous. À Dijon, c'était un accueil phénoménal. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là à Dijon. Bajnouille, à ceux qui disent Bajnouille, des Bajnèdes aux autres. Et bonjour à tous les autres. Vous étiez plus de 230-240 pour une salle de 200 personnes. C'était exceptionnel. Je reviendrai sans doute au Darcy Comedy. Voilà, on va commencer la revue de presse. En attendant, merci beaucoup. Pourquoi faire une revue de presse? Bien, tout simplement pour savoir en fait comment petit à petit le même son de cloche arrive sur tous les médias pour dire à peu près tout le temps la même chose, que ce soit Gaza, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la vaccination Covid, que ce soit Emmanuel Macron, le meilleur président que la France ait jamais connu. Bref, oui, vous l'avez compris, généralement, les journalistes, quand ils sont sur des chaînes de télé mainstream, sont d'accord pour dire à peu près tout le temps la même chose, et c'est assez angoissant, pour ne pas dire agaçant, pour ne pas dire juste lassant. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre des médias dits alternatifs, ou pire encore, conspirationnistes, parce que Conspiracy Watch a sorti une carte des médias conspi du web, et non, le monde moderne n'en fait pas partie, puisque nous lisons la presse officielle, donc ce serait difficile de nous traiter de conspi. Nous ne faisons que commenter, bien sûr, la presse des oligarques, des milliardaires, celle qui fait que, eh bien, Kretinsky, Xavier Niel, Bolloré ou encore notre ami Bernard Arnault décident un peu de s'acheter des médias pour la démocratie, parce que c'est important, la démocratie. Il faut bien que les Français comprennent qu'il faut toujours choisir la bonne saucisse tous les 5 ans. Attention, il ne faudrait pas se tromper de saucisse. Et là, si ça continue comme ça, la saucisse va s'appeler Marine Le Pen. Et oui, parce que rien n'est fait, évidemment. Le barrage, c'est fini depuis longtemps. Et quand on voit les gesticulations des uns et des autres, la flambée sécuritaire après, bien sûr, un énième attentat, eh bien, on est mal barré, je ne vous le cache pas. Pire encore, on apprend qu'Emmanuel Macron, j'arrive même plus à dire son nom en fait.
Je vous l'annonce là, c'est un point hyper important. Je veux que on ait
un truc hyper important.
Dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres.
Planter des arbres. Hein, vous plantez les sixièmes. Planter des arbres. Attention, et ça c'est quand même hyper important. On va parler bien sûr d'Agnès Pannier-Runacher qui nous refait le plan de la sobriété. Une petite hausse des tarifs, vous allez voir qu'il sera très sobre. Allez, on va commencer. Oui, donc je voulais dire qu'Emmanuel Macron, prend conseil auprès de Bernard-Henri Lévy et Yacine Bellatar. Pourquoi on apprend ça? Tout simplement parce que vous vous rappelez, juste après le 7 octobre, Emmanuel Macron arrive en Israël et aux côtés de Netanyahou, il évoque, comme ça, une idée géniale de coalition internationale contre le Hamas. Consternation des pays arabes, consternation de tous les diplomates français qui se disent « Non mais on n'a pas fait tout, non mais on n'est pas arrivé là quand même ». Et oui, donc tout le monde rigole en disant « Non mais on ne peut pas faire comme pour Daesh en fait, non c'est pas normal ». Et c'était une idée de Bernard-Henri Lévy. Oui, c'était une idée géniale du mercenaire en mocassin Bernard-Henri Lévy. Et puis de l'autre côté, quand il y a eu la marche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron s'est dit « Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est pas la place d'un président, on sait jamais ». Et là, c'est Yacine Bellatar qui est censé prendre le pouls de la société française. Hein. Bon, alors si c'est lui qui prend le pouls, autant dire que là encore, excellent conseil pour Emmanuel Macron. Et il lui dit « Écoute Coco, c'est peut-être pas bon que t'y ailles, les gens vont trouver que c'est une provocation. Que de bons conseils, que de bons conseils, mais surtout un pays qui est en train de sombrer gentiment avec des chiffres du chômage calamiteux, avec, on a parlé hein, bien sûr, une dette qui continue d'augmenter, même si Standard & Poor's n'a pas dégradé la note de la France parce que Bruno Le Maire promet des grosses réformes hein, pour le plein emploi et puis surtout pour contrôler la dette. Voilà. Voilà. Ah oui, vous kiffez vivre comme ça? Non, je crois que les gens en ont marre, en fait, de toutes ces bêtises. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à se dire, mais comment ça se fait en fait qu'on est enfermé dans cette réalité parallèle et qu'on ne peut pas en sortir? Alors, est-ce qu'on commence par l'hôtel Krief ou est-ce qu'on commence par le terroriste qu'on aurait vu venir, qu'on l'aurait vu venir, qu'on n'aurait pas pu? Hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez commencer? Comme je vois que vous êtes déjà super nombreux, c'est vous qui décidez. Allez. Bon, je ne vois pas. Alors c'est vrai que sur Twitter, il n'y a pas de commentaires. C'est un peu dommage. Il n'y a pas de commentaires en direct. Mais il y a des... Voilà, ça fait partie de... Bon, j'essaye des trucs, hein, vous voyez. Rousse. Allez, on commence par Roussel Krief. Ah là là, vous êtes gourmand, hein. Ah là là, je... Alors, je prends une gorgée de café, parce que quand même... Bon, on fera le terroriste après. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ce week-end, quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jean-Luc Mélenchon a traité Roussel Krief de... Alors, attendez, je vais trouver son tweet. De manipulatrice... de fanatique, voilà, quelle honte, parce qu'elle avait invité Manuel Bompard, qui répondait à une interview assez violente, en fait, en disant, mais on sent, en fait, vous voulez quoi, que je vous dise que les musulmans sont tous des terroristes, c'est quoi, en fait, votre problème? Et évidemment, ça commence à se voir que les mainstreams sont en panique, qu'il y a une vraie propagande, hein, que ce soit pour la politique de Netanyahou, hein, sur Gaza, même si, quand on parle de génocide, eh bien non, il ne faut pas dire génocide à Gaza, plus de 700 morts en une journée quand même. Bon, mais non, c'est une opération militaire qui se passe très bien. Bon, si c'était Vladimir Poutine, inutile de vous faire un dessin. Et donc, c'était un interrogatoire et Jean-Luc Mélenchon réagit en disant « manipulatrice et fanatique ». Bon, voire propagandiste, il aurait pu le dire. Et là, soutien, mais immédiat, de toute la profession, donc tous ces journalistes exceptionnels, de CNews à BFM, en passant par le groupe TF1 qui soutient sa journaliste, tout le monde y va, de la petite larme « Rousse, elle est géniale, arrêtez de dire qu'elle fait du sale boulot, c'est pas vrai ». Eh oui, c'est pas vrai, elle fait du super boulot, Roussel Krief. L'attaque de Jean-Luc Mélenchon contre Roussel Krief est inadmissible. Chaque journaliste de France devrait condamner les mots écrits par Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter à l'encontre de l'une de nos consorts les plus remarquables. C'est vrai, ça. Elle fait un boulot exceptionnel. Et vous êtes là. Bon. Alors que c'est bien connu. C'est pas la faute des journalistes qui racontent n'importe quoi. Donc Pascal Praud qui commence à monter au front. Donc déjà, tu sais... Ah, ça va être un truc assez sévère. Ensuite, Caroline Fourest. Oui, alors... il y a 15 jours, il s'envoyait des fleurs à Fallentoven et elle en disant « Quel bonheur de travailler avec Caroline !»« Oh, quelle merveille que de travailler avec Raphaël pour eh bien, travailler à l'édification de la vérité, de la joie et de la bienveillance !» Bon, c'est le monde bourgeois, hein. C'est un monde où bon, l'inflation n'existe pas, on est un coup à Marrakech, un coup à Paris, on ne sait pas trop. Et puis globalement, on tape sur les populistes qui sont très dangereux. Et là, tout mon soutien, bien sûr, à Roussel Krief, honteux, dangereux, malhonnête et dégoûtant. Il faut relire son édito sur le retour du refoulé chez M. Mélenchon, si juste qu'il a visiblement fait mouche. Édito qui était dans le journal Le Point pour dire combien la France Insoumise était un parti terrible, infréquentable, antisémite, voire pire encore. Ouais, non, incroyable. Et puis, on continue. On apprend que Gérald Darmanin a annoncé ce matin sur BFM, hein, tout ça se tient, c'est quand même pas mal, que Roussel Krief va être placé sous protection policière, voilà, à cause de l'invective et du nombre de critiques qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. Alors, on ne critique pas les journalistes, surtout quand ils font un travail exceptionnel. Voilà, traiter Roussel Krief de fanatique est extrêmement grave. Cet oncle si gênant qu'on n'a plus envie de l'inviter au repas de famille parce qu'il raconte strictement n'importe quoi. C'est Olivier Véran qui parle en ces termes de Jean-Luc Mélenchon. Olivier Véran, porte-parole du mensonge, pardon, du gouvernement. L'homme qui nous promettait la vaccination qui protège tout le monde. L'homme qui parle plus vite que son ombre. C'est oui, c'est l'homme politique qui parle le plus rapidement de toute la classe politique française. Et surtout pour raconter des bobards, n'importe quoi, à une vitesse phénoménale. Et ça, c'était ce matin, bien sûr, sur le plateau de RTL, cette fois-ci. Et c'est vrai, la Macronie, c'est censure et propagande. Donc, dès que tu commences à critiquer la propagande, eh bien, tu es censuré. On ne l'invite plus, ça ne sert plus à rien. Et c'est vrai que, alors, en revanche, Jean-Luc Mélenchon était invité à 8h30 le samedi matin sur le service public. Et là, c'était les critiques en disant « Comment Ali Badou était trop content de le recevoir, mais c'est pas possible, c'est un agent infiltré de la France insoumise, comment c'est possible ?» Le niveau du débat est juste catastrophique. Et puis, juste rappeler une chose. Quand on est journaliste, on ne raconte pas n'importe quoi. On ne fait pas de propagande. On n'appelle pas de ses voeux la censure d'une classe ou d'un parti politique. On ne relaie pas des communiqués de presse de Pfizer en disant que c'est ça la réalité dans nos hôpitaux. C'est un ministre. Un ministre, c'est encore, je pense, ce qui fait le plus de fake news et qui déblatère des réalités alternatives, bien plus encore qu'un journaliste. Alors, c'est un métier essentiel, le journalisme, avec les faits que l'on doit toujours aller chercher, rappeler et puis dire comment tout cela se passe. Essayer de donner à peu près un juste milieu, où est la vérité dans tout ça. C'est compliqué puisque nous avons affaire à de la propagande dans toutes les guerres, et le monde est en guerre, on a l'impression qu'il y a une ébullition exceptionnelle. C'est aussi un peu rappeler, et là c'est le rôle de l'éditorialiste, où est le bon sens ? En fait, à quel moment on quitte les rives en fait, de la bienséance pour raconter n'importe quoi ? Où on appelle plein emploi une économie à plus de 5 millions de chômeurs ? Où à 3 000 milliards de dettes, on pense que l'économie française va bien ? Voilà, juste rappeler quelques points essentiels, et ça c'est le rôle de l'éditorialiste. Alors, je sais, hein, c'est n'importe quoi en ce moment, on a l'impression quand même que le débat va aller très loin, beaucoup trop loin, et qu'on n'en reviendra pas. Il y a une mécanique qui se met en place d'une extrémisation du débat. C'est volontaire. Le centre, le parti unique, pousse le spectre politique aux extrêmes. Mais pas les partis politiques, mais les réactions des uns et des autres. Parce que ce centre-là ne veut pas qu'il y ait de débat politique. Le 49-3, 20e 49-3 d'Elisabeth Borne à l'Assemblée. Donc pas de débat politique, pas de débat même sur les termes. Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait, Gérald Darmanin ? Encore un attentat dans Paris, dans un quartier touristique où un touriste allemand a perdu la vie alors qu'il venait visiter la ville la plus belle du monde, soi-disant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et quand tu dis ça, ben non, c'est compliqué. Et je crois que oui, il y a eu la parodie, bien sûr, lors de trop, de Malik Bentala, qui a fait peur. Il y a le fait qu'il y a eu les nombreux mensonges sur l'Ukraine, sur LCI, où là, effectivement, tu vois qu'après un an de n'importe quoi propagandiste, ben, c'est n'importe quoi. Il y a eu BFM et ses nombreuses fake news également, très peu débunkées, qui ont fait dire n'importe quoi à Dominique de Villepin, et qui se sont vaguement excusés en disant « Ah, c'est vrai, non, il n'a pas dit un truc comme ça, mais bon, c'était quand même antisémite, merde. » C'est scandaleux. Cette médiocrité voulue, en fait, hein, parce que c'est de la médiocrité voulue, je pense. Cette bêtise aussi, je pense qu'elle est... Elle est délétère. Parce que ce débat, que ce soit Gaza, que ce soit l'idée de la démocratie, que ce soit la montée de l'extrême droite... L'ultra-droite, qu'est-ce que c'est que la droite ? L'idée même de poser des questions sur la sécurité. Enfin, vous vous rendez compte que, on va en parler dans un instant, mais c'est une minorité de fichés djihadistes qu'on pourrait suivre de beaucoup plus près et qu'on pourrait empêcher de passer à l'action si on mettait les moyens d'une politique. Mais non. La volonté, c'est que là, ils vont sortir de prison, ils sont nombreux, et puis ben, ils feront un peu comme Armand, ils feront un peu ce qu'ils veulent, en disant « Oui, c'est vrai, non, c'était pas bien, je me suis refait pousser là-bas. » Mais c'est pas ce que vous croyez, monsieur. Sans parler de la diplomatie calamiteuse, on n'en parle pas non plus dans nos médias mainstream, mais la visite d'Emmanuel Macron à la COP28 a été un fiasco total. Il avait souhaité avoir une table ronde avec les chefs d'État arabes, faire une petite tournée du Proche et du Moyen-Orient, essayer d'avoir un petit appel de Paris++ avec Dubaï et les autres. Tout le monde lui a fermé la porte au nez. À cause, ça, de coalition contre la masse, à cause de sa prise de position aussi dans la guerre Israël-Palestine, même si la Palestine n'existe pas, et donc il ne peut pas y avoir de guerre, c'est contre le Hamas. Et tout ça, dans un silence absolu, très calme, il ne s'est rien passé. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et je dois dire que c'est assez tragique de voir que notre petit pays s'enfonce jour après jour dans la corruption, la propagande, la censure et le mensonge. Ça veut dire que la fin des temps est assez proche. Enfin, la fin des temps. Merci beaucoup, héros résistant. Merci du soutien. Ah oui, et puis oui, je ne vous parle pas, mais quand j'étais sur scène à Dijon, le jour même, les services publics avaient organisé une simulation d'une tuerie de masse au stade de Gaston Gérard, le stade dijonnais. Hein. Ils ont fait ça le lendemain en Corse. L'idée, c'est de se préparer à une tuerie de masse dans un stade pour les JO, pour éviter le pire. Alors, vous avez des figurants qui sont maquillés façon zombie walk, hein, qui ont donc les viscères à l'air, etc. Et tous les services qui sont là pour faire une répétition générale au cas où il y a une tuerie de masse. Voilà, c'est très rassurant. Alors, là, ça va. L'attaque terroriste était-elle évitable ? Nous demande le journal de Bernard Arnault, aujourd'hui en France, Le Parisien. Allô ? Oui. Alors, dans la mesure où le terroriste donc, avait déjà été emprisonné pour un projet d'attentat à l'âge de 19 ans, qu'il était sorti donc en 2020 après avoir purgé une peine de 4 ans de prison, il me semble, est-ce que lorsqu'il est sorti et qu'il était suivi par la DGSI, hein, parce que fiché S pour troubles psychologiques, est-ce qu'éventuellement l'attentat aurait pu être évitable ? Oui ? Ah bah oui, non, c'est compliqué, oui. Non, parce que même ses parents étaient inquiets quand même. Il a quand même fait une vidéo à la dead. Oui. D'accord, donc c'était... D'accord, ok. Non, c'était pas évitable. Non. Bah non, en même temps, qui aurait pu prédire, hein, un radicalisé qui sort de prison? Oh non, mais qui aurait pu prédire? Non, c'est vrai. Moi, je... Voilà. L'impossible déradicalisation d'Armand. Alors, tout le monde était là. Il s'appelle Armand. Oui, attendez. On va arrêter avec les prénoms. Hein. Voilà. Peu importe le prénom. Le djihadiste. Alors, quand même, ce djihadiste avait un parcours assez exceptionnel. Il a été en contact avec le tueur de Samuel Paty. Il a été en contact avec tout ce que la France compte de cellules terroristes pour partir en Syrie. Le mec était ultra connecté, ultra radicalisé. Bon, il va en tôle, il se radicalise. Il sort de tôle en disant « Ouais, non, c'est bon, j'ai arrêté mes conneries, tout ça, j'y crois plus, les vierges, tout ça. » Et là, il te fait une petite vidéo pour l'État islamique en disant « C'est bien, continuez le boulot, c'est super les frérots. » Le gouvernement est sous pression. Bah oui, parce que les Français se disent « Mais vous faites rien, en fait. » Je veux dire, non, mais en matière de sécurité. C'est ça, vous faites rien. Non, mais je voulais savoir, c'est tout. Donc, non. Alors, il y a une première piste de réflexion. Là, on s'est réunis, on a mangé des Pringles, tout ça, là. Ce serait que les autorités puissent demander des injonctions de soins pour les personnes radicalisées souffrant de troubles psychiatriques. Donc, là, ça n'existe pas alors ? Ça veut dire qu'en ce moment, les mecs sont... Bah ouais, non, en ce moment, les tarés sont totalement libres de se radicaliser, de recommencer à faire des attentats. Bref, c'est tranquille. Et là, tu te dis, non mais les gars, c'est pas sérieux. Ça veut dire que jusqu'à présent, rien. Non, c'est pas ça, parce que vous allez voir, tout a été fait dans le cadre de la loi, nous a dit Olivier Véran, c'est super bien foutu. Alors après, qu'un mec soit... Éventuellement, tu l'empêches de se procurer des outils de jardinage, des armes, des... Tu vois, bon. Surtout que maintenant, c'est avec des couteaux et des marteaux. Mais là, quand même, une super mesure, hein, c'est de demander des injonctions de soins pour radicaliser souffrant de troubles psychiatriques. Mazette. On va revenir. Excusez-moi, parce qu'il y a plusieurs nouvelles et je n'ai pas eu le temps de classer. C'est ma faute. Alors que vous êtes très nombreux ce matin, j'aurais dû faire beaucoup plus attention. On va revenir, bien sûr, à Armand, le terroriste qu'on n'a pas vu venir. C'est ballot. C'est incroyable. Ah, c'était surprenant. Ah, je te jure, je... Mais non, mais c'est vrai, il a discuté avec le tueur de Samuel Paty et tout, mais bon, je ne l'ai pas vu. Franchement, je... Pouh, c'était... Quel... Ah, j'étais... Ah là là, c'était un choc. Un choc. Alors bon. Reparlons d'Olivier Dussopt. Vous le connaissez ?
Personne n'a trinquin !
C'est le ministre qui a sabordé la retraite. Hein. Un ancien mec du PS, devenu macroniste, prêt à tout faire pour être ministre, il l'est, c'est très bien. Et là, je me place dans la perspective d'une relaxe.
Je me place dans la perspective d'une relaxe.
Ah bah Olivier, dis donc, c'est super, pourquoi ? Alors, parce qu'il est jugé pour favoritisme. Vous allez voir, non mais c'est... Oh, c'est... Il faut avoir encore la force d'en rire parce que c'est très compliqué. Mais voilà ce que risque Olivier Dussopt. 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ont été requis à votre encontre, c'était mercredi dernier, pour des soupçons de favoritisme lorsque vous étiez maire d'Annonay, c'est en Ardèche. Bonjour aux habitants d'Annonay qui suivent la revue de presse. Et si vous êtes condamné, est-ce que vous démissionnez, Olivier Dussopt ? Question assez radicale hein, du journaliste du Parisien aujourd'hui en France. Réponse d'Olivier Dussopt.
Je sais pas si je le fais avec sa voix.
Non, ça va être trop compliqué.
Je me place pas dans cette perspective-là.
Pardon. Tu sais, tu dirais les bonhommes de ventriloquie des années 40.
Alors, Olivier, je vous emmerde et tout.
Non, pardon. J'adore la ventriloquie mal faite. Pour ceux qui connaissent la revue de presse, vous savez, il y a Timmy. Y a... Alors, non... Il ne se place pas dans cette perspective-là de démission, non. Un procès est une expérience que je ne souhaite à personne. Mais cela m'a aussi permis de répondre point par point aux accusations et interrogations. Très bien. Mais acceptez-vous la règle selon laquelle un ministre condamné démissionne ? Ah bon, c'est une règle ? Je... Vache.
Je sollicite la relaxe. C'est dans cette perspective que je me place.
Donc, tu as 2,5 questions sur... bon, alors quand même, vous êtes quand même bien dans la sauce un peu quand même. Il dit non, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Et puis ensuite, c'est... Et alors, quand est-ce qu'on casse les lois pour le travail ? Ah bah, vous faites bien de me poser la question puisque c'est vraiment mon boulot. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est super, je suis très content de casser toutes les lois sociales de la République sociale puisque de toute façon, ça sert à rien. Et qu'on doit contrôler la dette, c'est pour Standard & Poor's. Sinon, on est tous morts. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Merci, Toms, David, pour le soutien. Merci. N'hésitez pas, si vous voulez mettre des pouces sous les vidéos, les partager, en parler autour de vous, n'hésitez pas. C'est pour Olivier Dussopt. C'est génial. Globalement, il y a des mecs qui prennent quand même 10 mois parce que rien. Hein, ils ont volé un sandwich et tout. Quand toi, tu fais un marché public avec du favoritisme en disant « Mais c'était très bien pour les habitants d'Annonay, donc je n'ai rien à me reprocher. » Bah, t'as rien à te reprocher. C'est comme quand tu vends le mobilier national pour une broutille, rien du tout, pour des copains. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais c'est formidable. J'adore la République bananière. Ça commence un peu, quand même, à fatiguer et à se voir. Autre nouvelle assez triste, quand même. La Normandie ne verra pas Guillaume Meurice. Vous savez, c'est l'humoriste de France Inter qui a été critiqué pour sa blague sur Netanyahou et son zizi. Eh bien voilà, avant quand des raisons de sécurité, la librairie L'Armitière, à Rouen, a annulé la venue de Guillaume Meurice, prévue ce mardi. L'humoriste, au cœur d'une polémique après sa blague sur le zizi de Benjamin Netanyahou, venait y dédicacer son nouveau livre, interrogé par Paris-Normandie. L'auteur trouve incroyable que le libraire cède aux pressions de l'extrême droite. Donc le climat en est là. Il faut savoir que Guillaume Meurice, suite à sa blague, a été convoqué par la police. Alors, on peut rire de sa blague ou pas, mais bordel, un humoriste convoqué direct par la police parce qu'il fait une blague sur France Inter. Derrière, t'as Charline Vanhoenacker qui en est tombée malade. Qui n'a pas pu présenter la semaine d'après. La directrice de la radio qui dit « Oh là 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 là, il a fait une blague !» Bon, elle était nulle, mais bon, c'est quand même terrible. C'est dingue. On ne peut plus rien dire, sauf que Russell Krief est une exceptionnelle journaliste et que, sans elle, les Français ne seraient pas informés comme il se doit. Donc, c'est assez exceptionnel, c'est formidable. Et on est dans ce monde de la valeur inversée, où les humoristes sont vus comme de dangereux criminels, où les ministres condamnés finalement ne sont pas... Enfin non, ils ne sont pas condamnés d'ailleurs, c'est bien foutu, puisque la Cour de justice de la République est là pour éviter qu'ils soient condamnés, et où on continue comme ça. Jusqu'où, je ne sais pas. Avec, mais un je m'en foutisme. Assez exceptionnel.
un talent, je crois, pour l'improvisation, que ce soit Gérald Darmanin, Olivier Dussopt ou les autres, là encore exceptionnel. Et tout ça, dans le silence, ou du moins l'acceptation d'une grande partie de la population française. Donc voilà, donc, c'est quand même terrible de voir qu'on en arrive là. Alors il y en a un qui a pris cher parce que négationniste, etc. C'était Dieudonné à l'époque de Valls. On pensait qu'il aurait pris pour tous les autres. Non, visiblement, Guillaume Meurice est en train aussi de se faire un peu comme ça, effacer. Faudrait pas trop faire d'humour, faudrait pas trop dire des choses. Faudrait pas, voilà. C'est assez terrible. Mais ça va aller quand même. Je pense pour lui, ça va aller. Alors là, c'est le Figaro qui se dit « Oh, quand même, on a quelques questions !» Non, parce que est-ce que l'attentat aurait pu être évité? Est-ce que des fois, qu'il aurait pu être évité? Hein? Non, bah pas forcément. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, immédiatement, bon, Gérald Darmanin s'est rendu sur place et a appelé le numéro vert, hein, pour signaler une attaque terroriste. C'est formidable. Il y a eu plein de réunions de sécurité, hein, dimanche, au sommet de l'État. Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin sont restés en étroit contact entre la lanterne et tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qui serait bien, c'est de mettre des QR codes, des couvre-feux et surtout de relâcher tous les djihadistes qu'on a en prison, puis de les laisser faire. Ah ben, si on peut avoir des injonctions de soins quand même pour ceux qui sont en souffrance psychologique et psychiatrique, ce serait quand même pas mal. Et donc, on a eu le Darmanin Show, hein, qui était très content, que l'attentat s'est bien passé. Il n'y a eu qu'un mort, deux blessés. La police est intervenue immédiatement. C'est terrible. C'est terrible d'en être là. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu un mort, finalement, on a eu chaud, quoi. Et c'est quand le prochain? Et comment on fait? Alors, je vous rassure, ils n'ont pas de plan. Ça va être très compliqué. Globalement, il n'y a pas de stock de bracelets, hein, électroniques. Alors, tu peux les obliger à aller quand même plus souvent au poste pour voir si ça va. Ça va, Armand? Ouais? T'as envie de faire un attentat ces jours-ci? Non? Bon, ça va y aller. Vas-y. Allez, oui, oui, oui. C'est terrible, c'est terrible. Mais il y a un truc super important, hein, c'est de planter des arbres, quand même. Non, non, c'est quand même super important. Voilà. Pff, quelle horreur. Donc Darmanin, on a eu quand même ces mélenchonistes du gouvernement d'État qui ont dit à Netanyahou d'essayer d'épargner un peu les civils à Gaza quand même. C'est limite antisémite de dire ça maintenant, donc attention. C'est l'administration Biden qui a publiquement mis en garde le gouvernement Netanyahou, donc les mecs se disent « Écoute, t'as montré que tu pouvais tuer tout le monde et raser Gaza. Après, ce qui serait bien, c'est de ne pas coloniser Gaza ou de tuer tout le monde, hein, parce que ça s'appelle un génocide. On n'a pas le droit de le dire, mais quand même. Et donc là, c'est quand même le département d'État, c'est quand même Blinken, hein, secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui recadre un peu Benjamin Netanyahou en disant « Écoute, d'accord, mais si vous poussez la population civile dans les bras de l'ennemi, vous remplacez une victoire tactique par une défaite stratégique. » Et c'est évidemment ce qui est en train de se passer, vu l'ampleur des victimes collatérales. Vu l'ampleur des bombardements, on ne peut pas apporter un soutien absolu, sans faille, comme l'avait dit Yael Braun-Pivet, non. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit « ce n'est pas une politique viable. Si vous faites la guerre contre le Hamas, vous en avez pour 10 ans ». Ce à quoi certains ont répondu « écoute, occupe-toi de tes affaires, hein. Toi, tu avais fait 100 jours d'apaisement, on a vu comment ça s'est terminé, donc s'il te plaît, tu nous laisses gérer nos affaires, s'il te plaît, Manu ». Et voilà. Non, j'ai pas vu la fermeture des classes Cagnes. Il faut que faut me le renvoyer. Je lis les commentaires, excusez-moi. Donc oui, c'est un siège, c'est ce que vous voulez. Mais là, même le gouvernement d'État dit bon. Alors, Libé, pareil, hein, tout le monde est là. Mais ah, c'était imprévisible, votre truc, là, parce que les Français se demandent quand même si vous pas de leur gueule. Et alors, non, alors ça tombe bien. Hein, les Français, rassurez-vous, non, on ne se moque pas de vous, puisque Olivier Véran a immédiatement dit que les premiers éléments de l'enquête montrent que le parcours du suspect a été conforme au droit. Voilà. Alors que bon, il a publié son message de revendication sur son compte X, ouvert en octobre. Il l'a reconnu lors de sa garde à vue. Alors vous allez voir que ça va être la faute encore d'Elon Musk et de X, hein, parce qu'il a publié son message sur cette plateforme, mais pas de la DGSI qui avait autre chose à faire, qui avait piscine pour suivre Armand, quoi. Non, c'est quand même terrible. Et donc, Olivier Véran est capable de dire que oui, le parcours du suspect était totalement conforme au droit. Donc, il faut peut-être revoir le droit donc, dans ce cas-là. Hein? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des centaines de gens qui sont actuellement en prison pour préparation d'attentats terroristes, pour terrorisme, qui vont sortir dans les mois et les années qui viennent. Si c'est tous des gars comme Armand, des bons gars, tu vois, qui se sont déradicalisés en prison, bon, bah, ça va bien se passer. Comme le dirait Gérald Darmanin, ça va bien se passer. Donc, voilà. Et c'est pas l'inflation sécuritaire qui va nous protéger de quoi que ce soit. Voilà. Dans la catégorie... Mais vous vous foutez vraiment de notre gueule, en fait. Oui. Oui, oui, puisque... Éric Dupond-Moretti a été relaxé et le parquet général ne va pas se pourvoir en cassation. Rémi Hetz a autre chose à faire. Hein. Le procureur général près de la cour de cassation l'a annoncé sur France Info ce matin. Bon, hein, la décision de relaxer le garde des Sceaux, c'est définitif. Alors que Rémi Hetz a été nommé par Manu, qu'il a été aussi derrière le parquet national financier, le coup Fillon, etc. Non, tout ça n'est pas une justice de classe. Non, tout ça n'est pas une justice exceptionnelle d'entre soi où la justice est perdante systématiquement. Tout ça n'est pas non plus un énorme foutage de gueule. Non, ce serait populiste de dire ça. On a quand même des institutions exceptionnelles. On a une république en béton avec une constitution qui garantit quand même nos droits fondamentaux. On a des valeurs aussi, bon sang, hein, protéger quand même les terroristes qui sont en souffrance psychiatrique pour qu'ils puissent avoir des marteaux et des couteaux et faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est quand même exceptionnel. Donc, c'est normal. Hein. Arrêtez d'embêter Éric Dupond-Moretti. Circulez, il n'y a rien à voir. C'est un ministre exceptionnel. Et le mot-clé ce matin, c'est exceptionnel. Roussel Krief est une journaliste exceptionnelle. Vous êtes un peuple exceptionnel. Tout est exceptionnel. Emmanuel Macron, bon, on n'en parle pas, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu, mais ça, vous le savez déjà. Donc, c'est une chance aussi exceptionnelle de l'avoir. Voilà. Donc, ça va bien. Hein, c'est normal si Éric Dupond-Moretti est relaxé. Il n'a rien fait, à part régler des comptes avec des magistrats quand il était ministre. Mais ça, c'est normal, puisqu'il était ministre. Non, c'est pas normal. Non, franchement, c'est pas normal. Et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Ah ouais. Mais bon, tout va bien. Allez, on va pas revenir sur le cas Roussel Krief, hein, bien sûr, puisque c'est une journaliste exceptionnelle. Elle a tout à fait raison. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est ce tonton qu'on ne veut plus inviter au repas, comme dirait Olivier Véran, mon Dieu. Dans Le Parisien dimanche, on avait quand même Bruno Le Maire en couverture et il a ressorti le col roulé, Bruno. Eh ouais, c'est cette petite saison de l'année où t'as les chants de Noël qui reviennent à la radio et où Bruno ressort le col roulé. Et là, tu te dis quand même, on en a de la chance. Hein. Et c'est une grande interview pour dire, bon alors, on est dans la sauce ou pas, je veux dire économiquement parlant. Tout va bien. Non, tout va bien. Il faut des mesures drastiques de simplification. Oui, par exemple, on pourrait... Bah, se débarrasser du gouvernement qui sert à rien. Hein, globalement, Emmanuel Macron décide, Bruno Le Maire écrit des livres, Olivier Véran raconte n'importe quoi, Elisabeth Borne vapote à l'Assemblée, et tous les autres, vous savez même pas qui c'est. Olivier Dussopt, bon, gère globalement ses déboires avec la justice, tout comme le ministre de la Justice. Donc, bon, on pourrait peut-être simplifier et se dire qu'on va gérer avec quatre ministres hein, qui sont pas mis en examen et qui se débrouillent. Pourquoi pas? Non, là, c'est de la simplification pour les entreprises. Hein. Si tu veux fermer ta boîte, par exemple, ce sera beaucoup plus simple. Non, je déconne, c'est pour l'URSSAF, tout ça, les trucs un peu compliqués. Et cette question, quand même, un peu cynique, hein, presque, hein, un peu rentre-dedans. Ça fait 7 ans que vous êtes à Bercy, quand même, Bruno. Quel est le grand changement que vous avez apporté à l'économie française? Je veux dire, long silence, et là,
les Français n'ont plus peur du chômage.
Alors, il n'a pas osé dire « j'ai apporté le plein emploi ». Donc il a simplement dit, vous n'avez plus peur du chômage. Ah, bon alors première nouvelle, alors lui n'a pas peur du chômage puisqu'il aura toujours un job, hein, comme il est ministre, écrivain, tout ça, et qu'il a vraiment plein de talents. Pour les autres, niveau renflement bras, ça va être un peu plus compliqué. Donc la réponse est quand même assez lunaire. Hein. 7 ans à Bercy, alors 3 000 milliards de dettes,
des faillites qui reviennent à leur niveau d'avant 2019, le chômage qui remonte, les Français n'ont plus peur du jeu. Merci Bruno, merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Dans la catégorie, alors, quand est-ce que le Rassemblement National est au pouvoir? Parce que bon, hein, quand même, hein. Alors, eh bien oui, Jordan Bardella, qui est pro-business, hein, qui veut faire de son parti l'UMP, eh bien, il était jeudi dernier au salon de la CPME, où il a rencontré le président, bien sûr, pour rassurer les patrons d'entreprise. On est de votre côté, on les aura, tous ces syndicalistes qui veulent se mettre en grève, vous inquiétez pas, on continuera la même politique que Macron, et on sera aussi dur que Darmanin face aux étrangers. D'accord, ok. Et puis, il a été reçu à HEC, hein, les hautes études en économie et en consulting, HEC, l'école économique exceptionnelle, avec 875 inscrits, hein, voilà, pour écouter Jordan Bardella à HEC. Tout va bien, la normalisation est en route. Hein, puis comme on peut passer ultra-droite, la droite de machin, donc non, il est globalement assuré, hein, d'un bel avenir, notamment aux européennes. Je pense que le Rassemblement National va faire un score assez fort, hein, comparé même à La République En Marche, qui s'appelle, je ne sais pas, Renaissance, Renew, reprends ça, remets-moi un peu de gigot, s'il te plaît, Michel, s'il en reste. Ah non, pardon, remets-moi un peu de sobriété énergétique, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu trop chauffé cet hiver. Voilà, non mais bon, très bien. Et puis des nouvelles de Valérie Pécresse. Elle vous avait manqué. C'est comme la queue du chien. Ça va et ça vient. Valoche. À chaque fois, j'ai du mal quand elle me... Pas qu'elle me déprime, mais c'est que j'ai de la peine pour elle. Je sens la meuf sous cacheton, quoi. Non, mais... Après, c'est un boulot, hein. C'est un gros boulot qu'elle a et tout. Mais tu la sens quand même un peu dans un mal-être, quoi. Du coup, ça, tu le ressens aussi, toi. Ben voilà. Donc, la présidente de la région Île-de-France va augmenter le ticket, bien sûr, de métro pour passer à 4 euros et 70 euros le pass semaine, hein, pour les JO, parce que c'est les JO. Non. Elle va demander aussi aux opérateurs de transport de signer une petite convention. Ah, ouais. Avec les polices municipales des territoires qu'ils desservent pour permettre à leurs agents, hein, plus de 5000 quand même, l'accès gratuit en tenue d'uniforme pendant les heures de service avec autorisation d'intervenir si nécessaire. Donc encore un cadeau pour les Condés. Hein. C'est comme pour la vaccination, ils n'étaient pas obligés, eux. Par contre, ils venaient sur la plage pour dire « Ah monsieur, une plage dynamique !» Ou alors ils arrivaient et disaient « Ah non, vous êtes à plus d'un kilomètre de chez vous, là. C'est 135 euros !» Attention, il y a le virus, là, attention. Voilà, 135 euros, merci. Et là, les mecs, encore un cadeau. Hein, cette fois-ci, vous pourrez prendre les transports gratos, ça tombe bien vu qu'ils sont hors de prix, et vous serez en uniforme, et vous aurez le droit de tirer. Puisque maintenant, les policiers municipaux, certains ont des armes. Tout ça, c'est pour la sécurité des Français, bien évidemment. Bien évidemment. On ne peut que se réjouir d'une telle mesure. Non, mais sérieux. Alors déjà, les types en uniforme sont des cibles. Il faut le savoir, hein, les policiers sont des cibles aussi des terroristes. Donc là, t'en mets un dans le... Non, mais c'est beau quand même. Bon, c'est Valoche, hein, c'est Valérie Pécresse, donc voilà. Puis on se rappelle quand même de ces gens en uniforme qui avaient fait un travail exceptionnel. Que ce soit ça ou que ce soit sur le stationnement aussi, on adore les petites amendes de stationnement à une minute près. On les adore. C'est pour l'ordre, monsieur. L'ordre et la santé. Ah, d'accord. Et puis, dans la catégorie, ah, mais c'est vrai, il est où Nicolas Sarkozy? On l'a pas vu ce week-end. Ah ben non, mais attendez, il était en train de faire la promo de son livre au Maroc. C'était le Marrakech du rire? Non, c'est le temps des combats. Et donc, c'était le 13 et 14, il va aller au Maroc. Non, ce week-end, je sais pas, il devait être dans le sud de la France. À Rabat, puis à Marrakech, au Grand Café de la Poste, pour des séances de dédicaces, hein, de son livre « Le temps des combats ». Il y aura une conférence aussi, hein, à laquelle il va participer, pour le think tank Conseil du développement et de la solidarité, présidé par Mohamed Benhamour. Voilà.
Ça va bien, je connais bien. C'est pas que je vais aller en Libye, je vais au Maroc. Très bien, le Maroc.
Très bien Nicolas, très très bien. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Des commentaires peut-être? Non? Donc, mais c'est, oui, c'est le président qui est mis en examen, qui a été condamné aussi, oui. L'ancien président de la France. Oui, il y a une affaire avec des valises de billets de Muammar Kadhafi, oui. Mais non, mais rien ne prouve que, jusqu'à preuve du contraire, que dalle. Ah, il était en Jordanie ce week-end, voilà. Quand même, qu'est-ce qu'ils sont ? Mais alors, pourquoi la presse nous donne des nouvelles de ces grands touristes ? Hein ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des vacances de Nicolas Sarkozy ? Bah, visiblement, si, hein, ça nous intéresse, puisque ouais, voilà, on en parle et tout, c'est génial. Et puis, entre Olivier Véran qui t'explique que le parcours était tout à fait conforme en droit et France Info qui te dit que l'assaillant a très clairement berné les services de renseignement. Bon, oui, je crois qu'il a très clairement berné les services de renseignement. Là, je crois que c'est une analyse en or hein, de la part de cet analyste. Clairement, le mec a berné les services de renseignement. Hein. Je veux dire, comment a-t-il pu se promener avec un marteau et un couteau, une énorme barbe, un masque, même pas FFP2, très mal ajusté, hein, alors que le Covid revient ? C'est dingue. Moi, ça me rend... Franchement, c'est terrible. Et puis, il y avait la COP. Alors, la COP, comme d'habitude, hein, c'est plein de gens qui prennent un jet privé, qui se réunissent dans un coin de la planète pour dire « Ah ben, comment on fait, là, pour le carbone ? Parce que ça chauffe. Il faut aller plus vite, parce qu'on va pas y arriver. » Alors là, ils se sont dit « Bon, on va gagner du temps, on va aller directement où on produit plein de pétrole et on va dire « Bah non, mais on va arrêter, parce que si on arrête le pétrole, c'est l'âge des cavernes. Hein. » Donc, sans pétrole, c'est foutu. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous imaginez, l'humanité a vécu des milliers d'années sans électricité, sans pétrole, avec beaucoup d'énergie renouvelable, d'ailleurs. On était moins nombreux, on n'était pas rentré dans une société de l'hyperconsommation ni un capitalisme financier international qui faisait que les échanges étaient mondiaux, internationaux, avec plein de trucs en plastique produits en Chine. Bon, on n'était pas dans ce délire-là, il y avait beaucoup de gens à la campagne, c'était une vie très différente. Depuis qu'on est passé à ça, on ne peut plus se passer du pétrole, notamment pour la pétrochimie. Et puis, on peut plus. Enfin voilà, on est accro à toutes les énergies, qu'elles soient fossiles, qu'elles soient renouvelables ou quoi. Le problème du renouvelable, c'est qu'en Allemagne, bah, le charbon, pas du renouvelable. Hein. Ils utilisent quand même beaucoup de charbon, les Allemands, en ce moment. Alors, tout ce qui ressort de la COP28, c'est que finalement, le nucléaire, c'est pas si mal. C'est sûr qu'on ne sait pas quoi foutre des déchets pendant des milliers d'années, mais globalement, on s'en fout, puisque c'est pendant des milliers d'années d'après. Donc, on va y aller. Et puis, si ça pète, non, c'est quand même super sûr. Donc, globalement, ça ne doit pas péter, puisqu'on gère vraiment bien nos centrales, avec vraiment de la qualité de gestion, mais petits oignons, quoi. Petits oignons. Et donc, bah voilà, c'est que ça va se passer. Donc, super COP. Super COP. Ah, et puis ça, quand Agnès Pannier-Runacher nous parle de fin de l'abondance, on se dit que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Agnès Pannier-Runacher assure simplement qu'il n'y aura pas d'augmentation à deux chiffres pour les futurs prix de l'électricité. C'est-à-dire que ça augmentera de 9%, mais pas 10%. Peut-être 9,9%. Mais la virgule ne compte pas comme un deuxième chiffre. Donc, en septembre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait assuré qu'une hausse de 10 à 20% était exclue hein, pour la réévaluation de février. C'est vrai, puisque les tarifs, en fait, ont prévu une augmentation d'ici 2027, en réalité, où là, ça va vraiment exploser. Les augmentations à venir sur les factures d'électricité n'ont pas vocation à être à deux chiffres, a dit la ministre de la sobriété énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Alors, elle n'est pas ministre de la sobriété énergétique, hein. Elle est ministre de la transition énergétique. Voilà. Et je baisse, j'éteins, je décale. Vous vous rappelez, l'an dernier, à la même époque, est-ce qu'on va passer l'hiver ? Est-ce qu'il ne faut pas quand même couper le chauffage à zéro et puis arrêter de... Hein ? Ben non, ben voilà. Non, là, ça va, on a bien géré, ça va. Aujourd'hui, demain, il n'y aura plus des envolées de prix telles qu'on les a connues en 2022 grâce à notre action au niveau européen et grâce à notre action au niveau français. Ah, merde. Voilà, les 27 se sont entendus le 17 octobre sur une réforme du marché européen de l'électricité, qui était quand même une énorme erreur hein, en ce qui concerne notamment les tarifs français liés au nucléaire. Et c'est encore une fois les Allemands qui n'étaient pas d'accord avec nous, hein, voilà, sur le nucléaire, comme d'habitude. L'idée, c'est de limiter la volatilité des cours sur les marchés. Et puis, il y a eu l'accord avec EDF du 14 novembre, hein, avec 70 € le mégawatt-heure en 2026 pour la vente pour EDF. Voilà. Et puis, le bouclier tarifaire va être levé. Donc, de toute façon, quoi qu'il en coûte, on va payer plus cher quand même. Plus l'inflation, plus...
se privent quand même du gaz russe et du pétrole russe, qui sont des méchants gaz et pétrole. Et donc, bon, tout ça pour du GNL américain, qui est quand même gentil, mais qui coûte plus cher. Voilà. L'État prend encore en charge 37% de la facture d'électricité des Français. L'État, c'est nous. Hein. C'est-à-dire qu'on paye pour qu'on paye moins cher. Ça, c'est Bruno, c'est très fort. Donc, c'est le bouclier tarifaire. Et puis, ça va se réduire courant 2024. Les prix sont en train de baisser avant de remonter gentiment. Hein. C'est comme The Hump, la petite bosse de l'inflation hein, de Christine Lagarde. Vous le connaissez maintenant. C'est toujours pareil. Hein. Et non, ce n'est pas parce qu'on se moque de vous. Non, c'est parce que globalement, on est obligé un peu de... D'improviser. Et sauf que si tu es au pouvoir et que tu dis que tu improvises, tout de suite, les marchés disent « Non, mais il improvise. » Non, il a un plan jusqu'en 2050 avec Ursula von der Leyen, carbone. Et là, on va pouvoir aller chercher de l'hydrogène. Dans les sols, on va pouvoir faire de nouveaux forages pour voir où est-ce qu'il y aurait éventuellement un peu d'hydrogène pour continuer, vu qu'on est quand même super accro à l'énergie, en général à toutes les énergies. Voilà. Donc on est vraiment super content d'avoir des ministres comme Agnès Pannier-Runacher ou Bruno Le Maire qui a ressorti le col roulé. Hein, et vous feriez bien de prendre exemple sur votre ministre et sortir également votre col roulé ainsi que votre bible de la sobriété énergétique. Parce que sinon vous savez ce qui va se passer. Hein. On va encore payer trop cher, ça va encore être la faute des Russes. C'est toujours leur faute de toute façon quand c'est pas les Arabes. Et après on va dire c'est, ou Mélenchon. Mais là, Mélenchon ne peut pas vraiment l'accuser pour ça, donc éventuellement, ce sera plus compliqué. Je regarde s'il y a eu des nouvelles autres que j'aurais ratées. Oui, le ministre de la Santé qui a repris Elisabeth Borne. Arrête de vapoter, s'il te plaît, dans le cadre de l'Assemblée. L'interrogatoire de Manuel Bompard, on en a parlé. Hein. Attention, Roussel Krief fait un super boulot, donc tout va bien. Et pour le reste, oui, c'est un pays en pleine dérive, en train de se transformer en république bananière, bientôt totalitaire. Mais c'est nos valeurs, c'est la démocratie libérale. Hein. Et s'il y a plus de QR code, s'il y a plus de couvre-feu, s'il y a plus de lois liberticides, c'est pour notre sécurité à tous, bien évidemment. Parce que certains en doutent. Oui, certains posent des questions. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a encore pas le droit d'aller... Mais rappelez-vous quand même, je crois que le moment Covid a été le moment de toutes les expérimentations possibles en matière de débilité liberticide. Et depuis, on cherche à y retourner, hein, les QR codes qui reviennent pour les JO. Et les JO vont être le moment, hein, clairement, pour mettre vraiment le paquet sur ces mesures-là. Voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Elle était courte ce matin, mais en même temps, c'est lundi. Et bon, à part, est-ce qu'on aurait pu éviter un attentat islamiste par un radicalisé suivi par la DGSI quand même? Non, c'est bien ce qui me semblait. Merci, c'était la question à 1 euro. N'hésitez pas, pour 1 euro par mois, vous pouvez soutenir le travail d'information de la revue de presse du Monde Moderne sur patreon.com/lemondemoderne ou bien sur YouTube si vous le souhaitez. Nous écrire aussi, en parler autour de vous. Si vous êtes sur YouTube, mettez des pouces sous les vidéos, parlez-en. L'algorithme, parfois, ne nous reconnaît pas et malheureusement, nous ratons de nouveaux téléspectateurs, publics, je ne sais pas, internautes, devrais-je dire. Et puis, j'ai oublié le twerk. En même temps, il y a eu le lancement de la campagne de LV, Europe Écologie Les Verts, avec c'est Marine Tondelier, je crois. Et le tarbouche. Hop, voilà, excusez-moi. Toujours mieux avec un tarbouche. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit tarbouche. Je ne sais pas. Marine Tondelier donc, lance sa campagne pour les européennes. La NUPES, c'est mort, hein. Pour les Europe... Vous avez compris, la NUPES, c'est mort. Hein. C'était juste pour, après les présidentielles, dire qu'il y avait des députés de gauche à l'Assemblée nationale, tout ça. Depuis, c'est totalement fini. Et donc quoi? Eh bien, rien. Eh bien, enfin, si, pardon. Ça a twerké de ouf. Alors, je peux pas vous mettre la vidéo. Excusez-moi. Mais donc, il y avait le lancement de campagne à l'Élysée-Montmartre, je crois. Les mecs, en fait... était très content et faisait on eut trois nanas en soutif à faire un cours de twerk. On lâchait tout, lâchait tout, lâchait tout. Et là, tu te dis,
pendant qu'il y avait l'autre qui était en train de faire son attentat, enfin juste avant. Enfin. Et là, tu dis, non mais, je veux bien. Hein. Fais du bien. C'est... Et les mecs avaient invité Gaspard Koenig quand même, qui avait voté Macron, pour lancer leur campagne pour les européennes. Alors, le problème, évidemment, un des gros problèmes, ça va être la question européenne. Qu'est-ce qu'on fait de cette Europe dans la campagne des européennes? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Alors, les gens sont plutôt pour, sont plutôt contents. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une super idée, ce lancement de campagne avec du twerk. Enfin, je ne sais pas. Et puis, je vous annonce aussi, et je le mets là dans les commentaires, le lancement et les pré-réservations, les pré-commandes, pardon, du disque du Monde Moderne, Chanson Féroce, que vous pouvez commander sur notre site. 15 titres issus de la revue de presse du Monde Moderne, parce qu'ici, on chante, parce qu'ici, voilà, on s'exprime, on twerk aussi. C'est pour ça que je ne vais pas critiquer les écolos et leur twerk, hein, même si bon, bah, c'est de la politique, c'est assez différent, c'est un autre exercice. Et on fait voilà, tout ce genre de choses. N'hésitez pas, bien sûr. On se retrouve demain, 9h30. Maintenant, c'est le nouvel horaire de la revue de presse. Et puis, vous avez vu, on est en multidiffusion dorénavant. Donc, n'hésitez pas à nous re-regarder, repartager, commenter et en parler pour que nous puissions continuer ce travail d'information qui, en ce moment, je crois, c'est un CD. Et peut-être on fera une réédition en vinyle, je ne sais pas, en fonction du nombre de petits albums qui partent là dans vos foyers. On verra ce qu'on fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez pas ça trop au sérieux, même si, bon, c'est vrai en ce moment. Mais si vous avez autour de vous des terroristes fichés S, mal-être psychiatrique, parlez-leur, faut pas qu'ils passent à l'action, faut juste éviter, s'il vous plaît. Oui, clé USB, mais ce sera aussi sur les plateformes, vous inquiétez pas, vous aurez de quoi écouter ces merveilles musicales de pop moderne, on va tout faire. Et chez Macron n'est pas sur cette version, mais on va sans doute l'augmenter, vous inquiétez pas. Allez, bonne journée, ciao.
De la des millésimes.